Alors, la question de l'individualisme. Alors, vous allez voir, c'est une chose un petit peu paradoxale. C'est que si, après la conférence, vous faites attention, quand vous lisez les journaux et tout, très systématiquement, ce mot est employé toujours négativement. L'individualisme, encore hier, je n'ai pas retrouvé pour aujourd'hui, mais j'ai eu un grand papier, il faut lutter contre l'individualisme forcené. Il est toujours forcené, exacerbé et tout. Alors, c'est quelque chose d'un peu paradoxal, je n'éclairerai pas forcément toutes les dimensions, mais qui est que, je vais vous dire que c'est une dimension centrale de nos sociétés, que même Durkheim pensait à juste titre dès la fin du 19e que ça allait être la religion de la modernité. Et en même temps, on se trouve donc avec ce paradoxe, c'est que l'individualisme est notre idéal, j'espère vous montrer même que c'est votre idéal, sans le savoir, et en même temps, ce mot est un repoussoir. Et je pense que dans l'histoire, c'est la première fois qu'on invente un Dieu qui sert en même temps d'image totalement négative. Donc, pourquoi l'individualisme fait peur? Je vais surtout d'abord essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, la première chose, c'est que c'est une vieille histoire, l'individualisme. Une vieille histoire, mais qui ressurgit aujourd'hui. Quand moi j'ai fait mes études de sociologie, il y a bien longtemps, puisque vous voyez mon âge, donc vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le deviner, je vous l'indique, 60, jamais entendu parler d'individualisme, hein, jamais. Les textes dont, par exemple, que Durkheim fait des textes sur l'individualisme, dit qu'il est individualiste, et tout ça, c'est des surprises. Donc, mais à la fin du 19e, quand maintenant on s'y est replongé, on découvre que c'est une des questions centrales, et notamment, y compris dans les questions politiques, hein, puisqu'il y a de nombreux ouvrages pour savoir quel lien, par exemple, il y a entre l'individualisme et le socialisme. Ça, j'adore. Personne ne vous a remarqué, hein. Mais non, mais c'est pas grave. Ah, on va peut-être la voir, hein. Oui, vous pensez?
Ben, je pense pas, j'en suis sûr.
Ah oui, parce que c'est un truc de... autonome. Alors, on va voir si... Oui. Oh là là. Ça, c'est quand même impressionnant. Donc, la conférence, Singlie 1. Donc, mais ça ne m'aide pas beaucoup plus, hein, parce que mes antisèches sont quand même pas très au point. Mais, bon. Mais j'ai remarqué que si je parle vraiment sans papier, les gens trouvent que ce n'est pas normal. Donc, j'emmène mes papiers. Hein. Ouais, deux, trois mots. Alors, non, il y a plus. L'individualisme, il était une fois l'individualisme. Alors, je vais commencer par le XIIe siècle, pour montrer que d'abord, c'est une longue histoire. Même si, au départ, au XIIe siècle, on n'utilise pas forcément l'individualisme. L'individualisme est utilisé vraiment comme catégorie, on va dire, semi-savante. Plutôt 19e. Mais les mécanismes qui sont derrière, c'est-à-dire des sociétés, là c'est parti, en tout cas pour moi, des sociétés qui vont produire et qui vont glorifier des individus, ça on peut penser, c'est toujours contestable de trouver une origine, mais en tout cas pour moi c'est 12e siècle. Alors vous allez me dire, on aurait pu montrer des tableaux où il y a des sociétés non individualistes, il y a toujours des individus. Donc la première chose qu'il faut bien faire attention, parce que sinon vous allez dire c'est délire, bien entendu dans toute société, dans tous les siècles, partout, il y a eu des individus. Donc on va parler aujourd'hui d'individus que moi j'appelle individus individualisés. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc il y a des individus au sens corporel, il y a toujours eu des individus. Si Adam et Ève ont existé, c'était des individus. Sauf que, théoriquement, à un moment donné, on a pensé pour des raisons qui restent en partie mystérieuses, en Occident, qu'on allait produire des individus, c'est-à-dire des membres de la société, d'une certaine façon, pour qui revendiquent d'être un individu. Alors, pour le comprendre, je vais parler d'une chose que vous connaissez en partie, qui est l'amour. Une des premières manifestations de l'individualisme, à mon sens, c'est l'invention de l'amour en Occident. Alors, cette histoire, qui a été mise en œuvre par des historiens, etc., bon, qu'est-ce que c'est? Au départ, il y a le mariage. Donc, comme ça, ça permettra de faire aussi un petit cours sur la sociologie de la famille, qui nous bientôt programme peut-être. Le mariage. Dans l'histoire, et dans la plupart des cultures, jusqu'à très récemment, le mariage, sa forme normale, c'est un mariage arrangé. Le mariage arrangé est la forme normale du mariage. C'est-à-dire, pourquoi c'est arrangé? Parce que c'est arrangé entre deux lignées. Un homme, une femme. Si vous avez des questions sur l'homosexualité, on en parlera plus tard. Pour l'instant, dans l'histoire, c'était quand même entre un homme et une femme. Sur une photo de mariage, ou sur un tableau de mariage, vous voyez un homme, une femme. En fait, ils ne sont pas là à titre individuel. Dans le mariage arrangé, l'homme est là en tant que fils d'eux, et la fille est là, la femme est là en tant que femme de, fille de, pardon. Fils de, fille de. Ils s'unissent, et puisque c'est une union, le mariage entre deux lignées, les individus, entre guillemets, c'est-à-dire les individus au sens ordinaire du terme et pas au sens théorique, sont des individus qui représentent la lignée. S'ils se marient, c'est en tant que membre de la lignée. Ils n'ont pas choisi d'être avec cette personne, ça obéit le mariage aux intérêts de la lignée, des deux lignées si possible. C'était ça, jusqu'à ce qu'on ne sait pas pourquoi, à la fois des romanciers, des poètes, des femmes, les femmes jouent un rôle terrible dans toute l'histoire, de l'individualisme, il va y avoir une autre demande et quelque chose qui est, oui, je vais dire je, hein, mais je ne suis pas au XIIe siècle quand même, pas si vieux, oui, je suis fils de, mais j'existe aussi à un autre titre. Hein. Et l'individualisme, première définition, on pourrait dire, ça veut dire j'existe à titre personnel. Hein. Alors que les individus dans l'ensemble des sociétés, ils existent bien évidemment. Hein, y compris, on reviendra dans les communautés, justement. Vous ne les avez pas connues, mais même moi, j'ai un peu connu ça. Si on veut, si on allait à la campagne, dans un village, on voit quelqu'un passer, et puis il y a quelqu'un derrière qui dit « Qui c'est qui passe ?» Et moi, je dis « Tiens, c'est le fils Intel. » Normalement, j'ai défini qui c'était. Bon, aujourd'hui, je pense même si ouais, ma maison n'est pas une très grande ville, j'en ai pas la moindre idée de la taille, normalement, je ne pense pas que les gens qui sont derrière leur rideau regardent et disent normalement « Tiens, c'est le fils Intel. » Éventuellement, on dit encore un qui est mal peigné ou qui doit être défini par d'autres critères. Fils de, fille de, mariage. L'amour arrive comme invention totalement folle, qui est qu'il va y avoir une deuxième relation, et donc quelque chose qui surprend, en tout cas la première fois qu'on l'entend, moi au début je ne voulais pas vraiment le croire, qui est que l'amour est né contre le mariage en Occident. Ça a été pensé comme quelque chose qui n'avait strictement rien à voir. Pourquoi? Parce que, d'un côté, il y avait l'intérêt des lignées, et l'amour, c'est le regard entre un homme et une femme, à titre personnel. Non pas François de Saint-Guy en tant que fils d'eux, mais une femme qui me regarde en tant que François. L'individualisme, ça n'existe qu'à partir du moment où on a cette croyance, hein, c'est une croyance que normalement la plupart d'entre vous partagez. C'est le fait que, justement, on a plusieurs dimensions identitaires et qu'on n'est pas réductible. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, vous le savez bien. Je pense que vous êtes élève de terminale. Hein, voilà, c'est une dimension sociale. Mais enfin, ça ne suffit pas normalement à vous définir. Vous n'êtes même pas convaincu que c'est forcément, ça dépend. Il y a sûrement des grandes différences ici, mais pour certains, c'est une dimension parmi d'autres. mais elle n'est pas vraiment au cœur de leur identité. Hein? Je ne pense pas que, si vous êtes normaux d'un point de vue social et psychologique, hein, caché au fond de vous, ce n'est pas d'abord élève de terminale. Non, vous êtes élève de terminale, comme moi je suis professeur de sociologie. Bon, il faut bien faire quelque chose. L'individu ne commence que quand il y a dédoublement. Ça, c'est le paradoxe de l'individualisme. Hein. L'individualisme, deuxième définition, c'est le dédoublement identitaire. Il y a forcément une identité sociale, fils de, prof, et l'idée que derrière ça, il y a aussi quelqu'un qui existe à titre personnel et que pour l'instant, vous ne connaissez pas. Et vous ne connaîtrez pas complètement, même au bout d'une heure et demie, même si je fais de temps en temps des petites ouvertures personnelles. Dédoublement. L'amour, c'est quelqu'un qui vous regarde non pas en tant que fils de, mais à un autre titre. Et donc au départ, pour que les femmes comprennent quelque chose, il fallait que ce soit deux hommes différents qui leur disent. Puisqu'il y a un, c'est « je te prends » entre guillemets comme épouse, c'est-à-dire comme fille de, et un autre homme qui la regarde et qui lui fait un compliment. Alors généralement, c'est... plutôt un genre poète, etc., et qui va lui faire des compliments d'elle en tant que personne. Et on lui chante pas normalement comme tu as de beaux hectares. Et même ceux qui ont l'ambition d'avoir une mention au bac, ici, normalement, ça serait vexant pour eux-mêmes, vous allez le comprendre, parce que ce mythe du XIIe siècle, nous y croyons toujours. Ça ne veut pas dire qu'il sera éternel, je ne sais pas s'il s'effondrera, mais pour l'instant, normalement, ça m'est arrivé une fois en plus, mais je ne vais pas commencer à vous raconter toute ma vie, parce que ce serait trop long, hein. 45 minutes, 60 ans, donc je n'ai pas le temps, une minute par an. Je me rappelle, en fin de première année de fac, j'étais un étudiant, on était comme ça, 200, 250, et puis, fin de première année, alors j'étais un lycéen moyen. Bon, à la fac, je me suis éclaté, j'ai eu de très bons résultats. Donc, classement, fin de deuxième année, enfin, fin de première année, classé de 5 litres, deuxième. Et là, il y avait une jeune femme que j'avais vue depuis le début de l'année qui me snobait un peu, quand elle a vu deuxième, elle était beaucoup plus sympathique. À quel titre me regardait-elle ? Elle me regardait en tant que deuxième sur la liste. En plus, elle avait le culot de le faire jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire, l'année d'après, est-ce que je ne peux pas faire les exposés avec toi ? Ben oui, au lieu d'avoir 14, elle aurait eu 16 ou 17. Et c'était, moi, je pensais vouloir être regardé par elle en tant que François. Elle me regardait en tant que second. Bon, ça n'a pas marché. La vie est dure, hein. On avance théoriquement, hein. Vous avez compris qu'en fait, même si ma mention est juste, mention l'équivalent, hein, ici de place de deuxième, par rapport à la construction, c'est là-dessus, on ne peut pas perdre, c'est une représentation, hein, l'individu, représentation que nous avons inventée, qui est dans toute dans nos têtes, même si vous n'avez rien lu. Vous n'avez rien lu, mais vous avez au moins vu, hein, parce que tous les films, tout ça, ça nous transporte exactement toujours le même mythe. C'est l'idée que derrière, il y a un vrai moi, une vraie identité. Et qu'il y a une tension entre ces identités sociales et une identité personnelle. D'où le problème pour les sociologues, qui quelquefois résistent d'ailleurs à l'individualisme, je fais une petite parenthèse, parce que la société, l'Occident, a inventé un mythe social, qui est un mythe d'apparence antisociale. Puisque la vérité des individus, ça serait la vérité cachée de, non pas François de Saint-Guy en tant que fils de, ça c'est du social, François de Saint-Guy en tant qu'ayant une identité authentique, unique, personnelle et tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est pourtant notre croyance. Et le début, c'est dans l'amour. Alors, j'ai pas le temps et tout, mais on va avoir donc à gérer, hein, c'est ça un des problèmes de l'individualisme, que vous avez à gérer vous aussi. C'est que vous avez au minimum deux couches. Une couche, vous avez votre conviction en tant qu'adolescent d'avoir, comme moi, hein, parce qu'on a le même mode de construction, hein, c'est-à-dire une identité personnelle, Et puis aussi, une deuxième couche qui est l'identité sociale. Donc vous êtes fils de, et puis vous avez aussi en partie une définition de vous-même. Un des problèmes de l'individualisme, c'est comment les deux s'articulent. Petit exemple que vous connaissez tous les jours. Vous allez me dire, c'est pas la peine qu'on vienne si c'est pour nous répéter la même chose. Sauf que quand ça vous arrive, vous ne pensez pas forcément que c'est un schéma théorique. Je travaille sur l'adolescence, plutôt un peu plus jeune que vous, mais ça marche quand même. Hein. Si vous revenez ce soir, mettons, certains, après il y a des variations hein, sociales, familiales et tout, éventuellement, votre mère est là, votre père, comment ça s'est passé ta journée? Question rituelle, disent certains dans les entretiens. Tous les jours, on nous demande comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, normalement, vous allez dire, tiens, ben aujourd'hui, au lieu d'avoir cours, les adultes sont censés arriver avant les plus jeunes pour montrer l'exemple. Mais le monde est ainsi fait que tout va mal. C'est la neige. C'est la grève des bus. Non, je plaisante. On est donc, si on vous demande votre journée, normalement, quand je dis normalement, c'est globalement, ça se passe comme ça. Vous allez dire, ben, en fin de compte, le prof n'était pas là, il y a eu la neige, bon, on nous a obligé à aller à une conf un peu bizarre et tout, bon. Normalement, vous ne racontez pas si tout à l'heure, en sortant, profitant de la neige et de l'ambiance un peu romantique, vous en profitez pour embrasser quelqu'un, vous, normalement, vous ne devez pas raconter ce morceau-là, forcément. Pourquoi? Parce que quand on vous dit « ta journée », c'est votre mère qui vous le dit, elle s'adresse à vous en tant que fils ou fille d'eux. Et vous racontez votre journée en tant que fils ou fille d'eux. Et vous êtes en partie au lycée en tant que fils et fille d'eux. Quand vous étiez en sixième, vous avez dû faire une première langue vivante. Qui a choisi ici sa première langue vivante? Levez la main. Quand même. Vraiment choisi, hein? Oh! Oui, je pense que des mains peuvent se baisser. Je n'ai pas dit avoir acquiescé à la proposition des parents. Progressivement, je ne devrais pas dire ça parce que manifestement, mais progressivement, c'est justement le processus d'émancipation qui est un processus continu, même à l'intérieur de son existence, un certain nombre d'actions, on va les faire à titre personnel. Ce sont des activités sociales. Peut-être qu'à 4-5 ans, dans certaines familles, on vous a dit ça serait bien de faire un instrument. Puis à un moment donné, vous avez peut-être accepté, puis vers 10 ans par exemple, il y a la chute du piano par exemple. Chute du violon, pourquoi je me suis emmerdé à faire encore des années de violon et tout? Et là, ça dépend, vous allez dire à titre personnel, soit j'arrête, soit je renégocie. Et démarrage, généralement, des classes de guitare. Si on prend certaines écoles de musique, vous vous arrêtez. Et donc, à un moment, une activité, hein, c'est ça l'individualisme, toujours se poser à quel titre on fait l'activité. Et dans le sentiment... C'est ça, à la fois ça posera des problèmes, mais on ne verra pas tous les problèmes aujourd'hui, on n'a pas le temps. C'est que on a plutôt le sentiment d'être bien, la définition, dans ce dédoublement, quand on agit plutôt à titre personnel, et pas à titre de délégué des parents. Une partie des lycéens, mais une partie de mes étudiants, sont là en tant que fils ou fille d'eux. Donc, bon... sont là. On peut être très gentil en tant que fils et fille d'eux. Hein. Mais la logique de l'investissement, au sens, c'est vraiment de l'intérêt et tout, non. Donc, les sociétés individualistes ont fabriqué quelque chose qui est des individus qui croient qu'ils ont une identité personnelle. Dédoublement. Alors, maintenant qu'on a mis le schéma en place de ce dédoublement, qui est donc une vieille histoire, hein, une phrase de Montaigne. Montaigne a été est un individualiste, hein, au sens tel que je viens de le définir, et il a été à un moment donné élu et nommé, à l'époque c'est pas très clair, mais en tout cas maire de Bordeaux. Et dans ses essais, il écrit cette phrase absolument géniale: le maire et Montaigne sommes deux d'une séparation bien claire. Voilà la définition d'individualisme. Professeur à la Sorbonne et de Saint-Glis sont deux, justement, c'est toute la phrase, sommes deux d'une séparation bien claire. Ok? Et vous pouvez faire, normalement, élève de terminale et Paul sommes deux d'une séparation bien claire. Dans la logique de l'amour, ça va être compliqué. Je continue sur l'amour. Mon prochain livre sera sur la séparation. Une séparation bien claire. Non, mais c'est pour ça que je travaille là-dessus. Puisque le processus de séparation est un processus d'émancipation, est un processus de séparation. Hein. Il n'y a pas d'individualisme sans séparation. Séparation. Il faut qu'il y ait de la différence. Pour pouvoir dire je, il faut pouvoir mettre à côté un habit. Je ne suis pas ça, je suis ça. C'est un grand principe de l'énoncé. On tombe amoureux, un homme et une femme, ça ne va pas vous décourager parce que vous le savez, vous regardez des adultes, vous passez, vous voyez, ça c'est souvent, ça revient dans les entretiens, vous voyez un vieux couple qui sont là, ils sont au restaurant, en train de manger, pas un mot. Ben, vous dites si c'est pour ça. Là, c'est quoi? Un mari regarde une épouse, et une épouse regarde un mari. Et ça ne vous fait pas envie, à juste titre, du point de vue de l'individualisme. Vous voudriez que, alors je ne connais pas les prénoms de ces deux personnes, mais X et Y se regardent à titre personnel, même s'ils sont mariés. Même s'ils sont mariés. Alors ça, les hommes et les femmes, à un moment donné, disent, ben, au bout d'un ou deux ans, on est justement en train de manger, etc. Bon, j'ai même d'ailleurs... Et j'ai l'impression d'être regardé en tant qu'épouse. Ou vous, en tant que fille d'eux. C'est-à-dire, par exemple, si vos parents sont obsédés scolaires, ça existe. Et vous vous dites, mais bon, c'est intéressant, c'est normal. Hein, qu'un mari voit aussi son épouse comme une épouse, c'est pas strictement anormal. C'est pareil dans le concubinage, hein, ça change pas grand-chose. Que vos parents vous regardent aussi en tant qu'élèves, c'est normal, mais normalement, y compris dans la relation parent-enfant, vous avez le droit de manifester éventuellement le fait que vous existiez à titre personnel. Et si vous êtes réduit à une dimension, alors vous avez le sentiment de ne plus exister, et donc la relation soit casse, soit va s'échauffer. Donc la séparation, c'est pour produire le sentiment de dire je. On ne peut dire je que si on a un rapport distant au rôle. Donc contrairement à ce qu'on pense, l'individualisme, ça n'est pas la fin des rôles sociaux, c'est simplement l'invention du fait que je ne suis jamais réduit à l'ensemble de mes rôles. Alors, encore un pas de plus. Qu'est-ce que c'est que ce je ? Ça a l'air comme ça simple, mais j'ai mis, moi, en tout cas, beaucoup de temps à comprendre. Vous ferez l'exercice éventuellement ce soir. Je ne vais pas le demander en levant la main, mais tout le monde ici ne fait pas forcément un journal intime. Pratique relativement minoritaire. Très rare chez les garçons. On parlera après des garçons qui posent des problèmes sur l'individualisme. Mais prenez une feuille de papier, pas maintenant, hein, c'est pas un contrôle. Mais éventuellement vous amusez et vous vous mettez et vous dites qui suis-je vraiment ? Moi de temps en temps, j'en sais rien. Hein. Je veux dire, le problème de cette identité qui n'est pas l'identité de mes rôles. Je ne suis pas que professeur, je ne suis pas que père, je ne suis pas que grand-père, je ne suis pas que mari. Ok ? Mais c'est quoi François de Saint-Gris ? Donc c'est pour ça que je travaille sur l'individualisme, pour répondre à la question, et je ne l'ai toujours pas. Je plaisante. J'en ai quand même un petit bout. C'est qu'à un moment donné, dans mes rôles sociaux, je peux me prendre un des rôles sociaux et le mettre dans mon identité personnelle, et provisoirement, c'est ça. Je ne vais pas vous raconter votre adolescence, je vais raconter la mienne. Pas plus brillante. Donc j'étais élève, oui. J'étais très fils d'eux, je n'ai pas tellement révolté, donc j'étais scout, j'étais une famille catholique, tout était bien. Et à un moment donné, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte de rien, rassurez-vous, hein. Très longtemps. Et alors, pour une histoire compliquée, donc je suis dans les. Je dois être en quatrième, en 62, 63, et arrive, j'ai eu cette chance, pour la première fois dans l'histoire, la culture jeune, avec une émission à 17h. Salut les copains. Alors là, c'est pour aussi dire, pour les suites de cours après, il faut aussi, je n'aurai pas le temps de le traiter, les conditions objectives. Hein. Parce que pour que ça soit possible, il a fallu que, pour que j'écoute ma musique, pour la première fois, il fallait une émission, mais il fallait aussi avoir un poste individuel dans la chambre. Alors qu'avant, mes frères, je suis le petit dernier, il n'y avait qu'un poste dans la salle à manger. Dans la salle à manger, on ne peut pas écouter « Salut les copains ». Puisque c'était fait pour que, justement, cette musique... L'autre jour, l'année dernière, le photographe qui te salue les copains a dit, celui qui avait fait l'émission, parce que le journal a marché du premier coup, 1 million d'exemplaires, c'était un truc, personne n'a compris, je n'avais qu'une seule consigne, c'était de faire des photos qui effraient les parents. Pourquoi ? Parce que... Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Imaginons que vos parents... aiment tous les deux, j'en sais rien moi, Beethoven. Si vous aimez Beethoven, c'est difficile à votre âge. Maintenant, vous pouvez, moi mes parents sont morts, donc je peux aimer Beethoven. J'aime pas Beethoven quand même. Mais si vous dites j'aime Beethoven et que votre père aime Beethoven et que votre mère aime Beethoven, vous aurez du mal à penser vous-même que vous dites je. Donc, vous écouterez quelque chose par lesquels ils ne peuvent pas vous le piquer. Généralement, donc, une musique qui les effraie, en partie. Donc, moi, c'était Johnny, Sylvie, tout ça. Donc, le niveau n'a pas monté. Ma chanson préférée de l'époque, je ne vais pas vous la chanter, mais je connais le texte, pour voir que c'était dans mon jeu. Dans la couche, à l'extérieur, il y avait latin, grec et tout. Hein. C'était chic. Et moi... j'ai dit « je » en disant « dadoun ron ron, dadoun ron ». Encore une fois, « dadoun ron ron, dadoun ron ron ». C'était ça toute la chanson. Grande, elle a été au hit-parade. Hein. « Dadoun ron ron, dadoun ron ron bon. ». Ben, c'est bien parce que c'est irrécupérable cette chanson. Hein. Donc le contenu est un contenu social qui n'est pas forcément, parce que très souvent on a la représentation que mon « je » profond serait un « je » profond, mais profond. Donc là, ça est caché au fond de soi, moi je suis sociologue, puis au fond de moi, ça serait par exemple philosophe, parce que la philosophie, c'est de la profondeur, comme vous le savez en tout cas. Les philosophes en sont persuadés. Non. Dans certains entretiens, il y a des femmes qui vivent peut-être vos mères, sans qu'elles vous le disent à vous, et si ça se trouve, elles se disent, bon, je suis mère, je suis épouse, tout ça, c'est bien, on peut très bien faire son rôle social bien, et... elle s'autorise peut-être, par exemple, à faire une soirée copine. Ou une soirée, je ne sais pas quoi, yoga, gymnastique et tout. Paf, c'est ça qui va être, à un moment donné, la définition de soi. Donc le soi personnel est aussi grande proposition. Est aussi un soi social, bien évidemment. Parce que dans nos ressources, qu'est-ce que vous voulez que j'aille chercher? Où c'est qu'il est mon moi profond? Nulle part. En revanche, je choisis. Or, on choisit des choses qui peuvent être... Ça, c'est un des trucs les plus surprenants. Revenons à « Salut les copains ». vous avez vu, hein, mon moi profond Johnny, puis dans quel état il est, hein, mon moi profond. Fin de la parenthèse. React tout. Donc, mais à l'époque, je ne le savais pas. Hein. Dans notre classe, on était à fois fils d'eux, parce que c'était l'enseignement privé, il n'y avait pas de filles, et on se disputait notre moi profond, entre guillemets. Donc il y avait, je m'en rappelle très très bien, c'était pas dans un grand lycée, hein, donc on avait une culture moyenne, donc il y avait ceux qui étaient les chats sauvages avec Dick Rivers, les chaussettes noires avec, vous raconterez ça à vos grands-parents, ça leur fera plaisir, ben, au moins tu apprends ça à l'école, c'est quelque chose d'utile, les chaussettes noires avec Eddie Mitchell et Johnny. Il y avait les trois, nous ça faisait, et on a l'impression de dire « je », parce qu'il y avait justement d'autres qui avaient un « je » plus différent. D'un point de vue externe, c'est totalement social. Donc quand vous regardez le social, le sociologue, il ne voit pas. Vous, vous pouvez dire « je », éventuellement, avec tel type d'habit. Et il y a des sociologues, comme ils vous regardent et qu'ils ont à juste titre l'impression que vous n'êtes pas habillé pareil, forcément, que les gens de 50 ans, ils disent « je vois que du social, donc il n'y a pas d'individu et vous n'auriez pas d'identité personnelle ». L'identité personnelle, c'est parmi nos différentes identités sociales, celle qu'on choisit à un moment donné de mettre au cœur de soi. Alors, les choses vont se compliquer. Mais avant que ça se complique, je finis mon schéma. À un moment donné, on prend donc une distance. Je ne suis pas seulement Montaigne, vous vous rappelez la phrase, Montaigne et, non, le maire et Montaigne, sommes deux. Il fait son boulot sérieusement, mais il ne se confond pas avec son travail de maire. Dans la logique de l'individualisme, la première action centrale, à la fois de l'histoire que chaque individu doit répéter dans les sociétés individualistes, c'est l'émancipation par rapport à la filiation. Alors, je ne regarde pas l'heure, mais je ne vais pas développer ça, mais c'est donc tout le mouvement de l'émancipation historiquement, hein, à partir de la philosophie des Lumières, l'autonomie, c'est le fait que justement, la première chose à faire, c'est quand même progressivement de ne plus être défini que par des liens d'autorité. Et sous l'Ancien Régime, on était fils de son père, fils du roi et fils de Dieu. Casser les trois fils verticales, à un moment donné, c'est ça, il n'y a pas d'autre définition de l'émancipation que d'être défini à titre personnel, c'est-à-dire pas uniquement dans un rapport d'identité héritée. Une fois que vous avez coupé le fil, que vous avez dit à vos parents, d'une certaine façon, vous avez maintenu « je ne suis pas toujours que ton fils ». Rien ne vous interdira, aujourd'hui ou demain, éventuellement, de revenir à des dimensions que vous pouvez apprécier parce qu'elles font partie de vos ressources, hein. Quand on est émancipé, on n'abandonne pas, il y en a certains qui abandonnent tout, mais on n'est pas obligé d'abandonner forcément la totalité de ce qu'on a appris pendant l'enfance pour devenir un individu émancipé, sinon il n'y en aurait pas beaucoup. Alors je vais m'autoriser, en hommage à mes parents, comme individu émancipé, une petite histoire religieuse. Au XIIe siècle, l'Église a produit un saint qui s'appelle Saint François, François d'Assise. Je porte ce nom-là. Je ne sais pas si mes parents l'avaient choisi comme individu émancipé, mais depuis j'ai découvert. En fait, François d'Assise était un fils de boutiquier, je vais vite, assez intéressant. Fils de boutiquier, donc il devait reprendre la boutique de son père à Assise, des marchands de tissus. Pendant l'enfance, les bourgeois avaient le droit de faire un peu de chahuse, aller faire la guerre, les croisades, tout ça. Vous allez combattre à côté d'Assise, et puis à un moment donné, chose sérieuse, on redevient fils et on reprend la boutique. Et il décide de ne pas être fils. Ça, au sens, il dit à son père, je ne reprendrai pas la boutique. Et son père, furieux, puisque normalement, à cette époque, Le fils doit être avant tout fils. C'est sa définition. Et donc, il le traîne au tribunal pour le faire condamner. Petite parenthèse historique pour ceux qui ne le savent pas, dans la Bastille, 14 juillet 1789, qui est quand même notre fête nationale, je rappelle que dans la Bastille, c'est que des fils ou des filles d'eux qui sont emprisonnés par ordre du roi sur la demande de leur père. Eh oui, parce qu'il y en avait des révoltés aussi à l'époque. Quand le père n'était pas content, prison. Alors, François d'Assise arrive au tribunal et dit à son père, c'est fini, je ne te dois rien, et il lui donne les beaux vêtements qu'il avait, puisqu'il était fils de marchand de tissus. Et il ressort tout nu, et pour bien marquer à jamais qu'il ne sera plus jamais le fils de lui, c'est pour ça que si vous voyez un jour des franciscains ou des capucins, ils ont une robe marron, parce que marron c'était la non-couleur de l'époque. Taka. Et donc au moins il n'était pas fils de. Il l'a marqué. Alors chacun d'entre nous ne marque. Il s'est émancipé. Ensuite, il a défini, comme chacun d'entre nous, il faut bien donner un contenu, il n'est pas resté tout nu, hein. Et lui, il a choisi d'être, alors c'est pour ça qu'il n'est pas complètement moderne, hein. On ne va pas faire une analyse, ce n'est pas le sujet, il va choisir, donc il va devenir religieux, va créer un ordre religieux, etc. Et donc, il va donner un contenu à son identité. Donc le problème de l'émancipation, qui est le problème des sociétés, c'est que à la fois on met à distance, ça sur le fond on apprend assez bien, puis même vos parents savent que de toute façon c'est plutôt normal, les psys, tout le monde vous le dit, bon, vous devez manifester. Un des problèmes c'est comment je dis « je », c'est-à-dire avec quel contenu. On ne dit pas normalement tout le temps que... je ne veux pas vous retracer, mais heureusement que je n'ai pas, vous vous rendez compte, dans quel état je serais si ma seule définition de moi-même, c'était Dadoun Ronron. Dadoun Ronron a été utile pour que je dise « je ne suis pas que votre fils » à mes deux parents, puis après, il a fallu quand même que je fasse du boulot. Hein. Faut le remplir, son moi profond. Qu'on peut changer relativement en permanence. Hein. Toujours dans les parenthèses des parenthèses, dans cette logique, la crise d'adolescence, elle est la crise de l'individualisation, parce que à un moment donné, surtout si vos parents veulent absolument ne vous voir que comme fils d'eux, ben vous les emmerdez. Et parce que vous ne pouvez pas normalement uniquement leur faire plaisir, parce que leur faire plaisir, ça veut dire vous nier. Or, d'une certaine façon, si ce sont entre guillemets des bons parents, ils doivent avoir aussi objectif de produire le fait de produire des individus individualisés. Donc on sait que vous donnez une définition. Peut-être vous aurez 20 ans, vous aurez 30 ans, etc. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Ben, il y a des gens qui ont 30 ans, il y a des gens à 40 ans. Une des surprises, par exemple, c'est d'observer un certain nombre de crises qui ne sont pas des crises d'adolescence, mais des crises de redéfinition, mettons à 60, au moment de l'âge de la retraite. Et les individus qui se disent, mais en fin de compte, qui suis-je ? Il n'y a pas de définition dans la représentation de l'individualisme. Le moi profond n'est pas un individu complètement figé une fois pour toutes. Hein. Vous avez votre définition aujourd'hui. Peut-être rétrospectivement, vous raconterez, y compris entre guillemets, vos moi profonds. Il y a des gens qui sont stabilisés, mais d'autres non. Ça n'a pas d'importance. Alors, combien ? 3 minutes ? 30 minutes ? Ça, toujours, les conférences sur l'individualisme produisent un choc. C'est ce qu'on appelle allergie à l'individualisation. Bon, ça va mieux ? Alors, on continue. Un des problèmes que je ne vais pas, enfin, je vais pas pouvoir vous, je le savais, forcément tout traiter, mais ce qui est caractéristique, revenons rapidement à Durkheim. Durkheim qui se définit comme individualisme. Alors Durkheim, à l'époque, quand je dis Durkheim, c'est l'ensemble des républicains. Ils sont persuadés que cachés au fond d'eux-mêmes, ce qui n'est pas complètement faux. Ça fait partie d'un des mythes. On a plusieurs choses qui sont cachées au fond de soi. C'était la raison. Donc, la logique de la citoyenneté, notamment, officiellement, quand on rentre dans l'isoloir, on est éclairé par la raison. On est à l'école républicaine, c'est pour progressivement, grâce au savoir des enseignants, advenir éclairé par la raison. Il y avait des doutes, hein, j'ouvre la parenthèse, sur le fait qu'on pensait que, par exemple, les femmes n'étaient jamais raisonnables, donc elles n'avaient pas le droit de vote, que les enfants, par définition, n'étaient pas raisonnables, donc, et par exemple aussi les gens des colonies. Hein. Donc je veux dire, il y avait des mineurs, justement, les mineurs, c'est-à-dire des gens, la majorité, ne voulait pas dire avoir 18 ans ou 21 ans, mais normalement, ça voulait dire être éclairé par la raison. Et Durkheim, il dit, attention, l'individualisme auquel je crois, je le trouve, la définition, l'individualisme, c'est la glorification, non du moi, mais de l'individu en général. Puisque si caché au fond de moi, c'est la raison, caché au fond de vous, c'est la raison, donc, en fin de compte, notre moi profond nous est commun. Et comme ça, ils pensaient qu'ils avaient réglé le problème de l'individualisme. C'était donc une définition de l'individualisme très paradoxale qui était, pendant cette période, l'individualisme qui nous serait commun. Ça a marché pas très bien, mais bon, on ne va pas faire de critique rétrospective. Et de toute façon, la vraie poussée de l'individualisation, donc revenons à Montaigne et à l'amour, c'est de dire, pour pouvoir dire « je », c'est cacher au fond de moi quelque chose qui n'est pas commun avec vous. Si ça n'est pas commun, chacun d'entre vous, vous vous le dites. Hein, vous dites, je suis élève de tel lycée, etc., je suis fils de, mais j'ai aussi ce petit truc. La question qui ne sera pas traitée aujourd'hui, mais que vous traitez et tout, c'est la question du lien social. Dès qu'il y a individualisme, il y a crise du lien social. Pourquoi ? Parce que, par principe, il n'y a pas de définition a priori du lien entre François, Juliette, enfin Juliette c'est pas un prénom très moderne pour vous, mais bon, je connais pas vos prénoms, tout le monde suit ? En revanche, si on est tous là en tant que raison dans la logique première modernité ou antérieurement en tant que fils de, si on est tous fils du roi et filles du roi, le lien existe avant nous puisqu'il nous est donné à la naissance. Ok ? Donc il y a l'individualisme, c'est nécessairement un gros travail, non seulement de construction identitaire pour savoir qui on est, mais forcément des liens, et du lien puisqu'il n'y a pas de définition de référence d'un lien qui serait un lien hérité. La difficulté, comme vous l'avez compris dans mon modèle pour aujourd'hui, mais mon modèle n'est pas pour aujourd'hui seulement, c'est donc qu'on a cette dualité d'identité. J'ai une identité sociale, notamment celle de fils de, et j'ai aussi une identité qui, à un moment donné, provisoirement, je définis comme identité personnelle. Ok. La question, comme vous l'avez compris, c'est de dire comment, il y a deux questions difficiles, comment j'articule les deux dimensions. Ça, c'est la grande inquiétude de vos parents. Vous vous dites, moi, j'ai envie de dire « je » en allant encore, en sortant ce soir, etc. Et vos parents, donc vous vous dites « je ». Vos parents, s'ils sont un peu de ce côté-là, ils vont vous dire « oh, zut, ton « je » me coûte 3 heures d'investissement scolaire. » Inquiétude. Alors, on a trouvé, heureusement, des techniques du « je peux faire mes devoirs » en écoutant de la musique personnelle. Là, c'est comme ça. Par exemple, il y a des adolescents, certains peut-être parmi vous, en tout cas ça c'est quelque chose qui n'existait pas historiquement, dans le rapport du « je fais mes devoirs » en tant que fils de ou fille de, mais pour bien montrer que c'est quand même moi qui l'ai fait, je l'ai fait au lit et non pas au bureau. Dans la plupart des chambres, le bureau normalement est bien couvert pour ne pouvoir pas travailler. Déjà que c'est pas drôle de faire les devoirs, en tant que fils d'eux, si en plus on les fait dans la chambre, parce que comme vous l'avez remarqué, sûrement ceux qui ont la chance d'avoir une chambre, votre chambre n'est pas votre chambre, elle n'est qu'à moitié votre chambre. Et le bureau avec les dictionnaires, c'est normalement pas... Ben, tout le monde a le droit de dire « je » où il veut. Hein. Enfin, globalement, dans les enquêtes, on ne voit pas qu'on pense que c'est son morceau de « je ». Donc, quand on demande aux gens « où c'est que c'est votre « je », c'est le lit. Et je les comprends. Je les comprends, mais moi, je me l'autorise moins. Juste une petite histoire, une minute. L'autre jour, j'ai un de mes brillants doctorants. Bon, qui avait fait autre chose, etc. Et il m'invite chez lui. Donc là, il vit avec sa nouvelle compagne qui a un enfant. Alors, un peu malhonnêtement, parce que tout ça, ça m'intéresse, je dis, au lieu d'aller tout directement dans la salle où il y avait la petite fête, je dis, moi, j'aimerais bien visiter. Alors, il me fait visiter la chambre du fils, donc comme ça, du fils de la compagne. Donc, j'ai comme ça accès à une chambre d'ado, donc ça, ça m'intéresse. Puis après, il me montre la chambre conjugale. Et je lui dis, Guillaume, où c'est que vous travaillez? J'ai pas vu de bureau. Bon, question idiote de sociologue, mais bon, je l'ai dit quand même, parce que je pensais que c'était que vous. Il me dit, je ne travaille exclusivement qu'au lit. Bon, j'ai dit, bah, c'est bien, sauf pour les marchands de bureau, hein. Pensez au drame. Essayez d'étudier pour ceux que ça intéresse. Donc, ce premier problème, c'est comment je fais de la jonction entre le fait d'être fils d'eux, donc des types d'héritage. Par exemple, vous pouvez aimer de manière même cultivée de la musique extrêmement moderne qui effraie vos parents, et il n'empêche que vous pouvez quand même vous situer dans l'héritage de la musique. Ce n'est pas la même chose que d'être sur carrément un terrain. Donc il y a plein de manières de faire éventuellement du lien entre les deux. Tout le monde suit? Première question. La deuxième qui la mène, c'est comment, puisque mon identité personnelle est forcément une identité sociale. Contrairement à ce qu'aurait tant voulu Durkheim. Mais on ne peut pas lui faire plaisir tout le temps. Il aurait tant voulu qu'à chaque fois, on dise que la raison et tout. Bon, Durkheim, il s'en est pas remis, il a vu la guerre de 14. Il a vu que, caché au fond de l'eau, en 14-18, la raison n'était pas à ce point-là centrale. Hein. Là, quand même, il a perdu son fils, mais même théoriquement, c'était dur. Comment on dit « je » ? Alors, vous l'avez compris, on peut dire « je » avec, donc, des t-shirts, Johnny, enfin, les équivalents, etc. Bon, n'importe, enfin, bon, ce que vous voulez. Les chaussures, par exemple, à une époque, moi j'avais un tiers de mes étudiants, maintenant ça date, je crois que c'est passé, mais c'était l'idée du, par rapport à la bonne tenue, qui était l'idée, j'ai des chaussures avec la sec que je ne lasse jamais. Oh, heureusement que je suis sociologue, parce que moi à chaque fois, ça me, je leur disais, mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez écouter mon cours sur Durkheim avec vos lacets défaits? Durkheim m'aurait fait grève, hein, c'est pas possible. Mais c'est fait pour ça, pour que moi je ne comprenne pas. Pantalon qui baisse, là, qui tombe. C'est ni bien ni mal. C'est simplement pour que moi, je me dise, mon Dieu. Ok, tout le monde comprend ça. La distance. À un moment donné, dans une société donnée, quelles sont les formes par lesquelles je dis je? Il y a eu la culture jeune, qui est devenue une culture générationnelle. C'est pour ça que vous ne quitterez pas tout, hein, vous serez comme nous tous, un peu radio-nostalgie, parce que vous garderez des morceaux aussi de ça. Et puis, la surprise de notre période aujourd'hui, c'est qu'on a vu des choses que, évidemment, puisque je dis je peux aussi dire je suis croyant. Alors, je vais terminer par un sujet difficile que je vais laisser comme ça aux enseignants à traiter pour les cours d'après. Système des fausses. Quel est le vrai problème que je me pose? Je mets « I love Coca-Cola ». J'ai le droit de rentrer au lycée. « I love Dieu ».« I love » pour remplacer le nom de Dieu par les dieux que vous voulez. Là, vous n'avez pas le droit de rentrer. Quelles sont les expressions personnelles qui sont autorisées? Comment je sais si j'aime Dieu en tant que obligé par mes parents parce que éduqué pour remplacer Dieu par Beethoven, par tout ce que vous voulez, ou je l'aime à titre personnel. Alors c'est vrai que si vous avez 12 ans et que vous aimez que Beethoven, je plaisante, mais vous dites mon rêve c'est quand même d'aller voir une pièce de Racine, quand c'est que dimanche on va au Louvre, même vos parents normalement s'inquiètent et vont téléphoner au psy. Donc c'est bien qu'eux-mêmes pensent bien qu'il faut qu'il y ait une distance. Mais peut-être qu'à 18 ans, à votre âge et tout, vous avez le droit de dire à un moment je, y compris en prenant par exemple la culture classique. La culture classique n'est pas définitivement, forcément, une culture seulement de vieux. Donc, Dieu est-il une culture de vieux, ou pourquoi j'aurais pas le droit de dire je en prenant aussi Dieu? Quels sont, et c'est une question, vous l'avez remarqué, les questions de l'individualisme, c'est des questions qui sont éminemment sociales. Quelles, dans une société donnée, comment et quelles sont les formes d'individualisation qui sont considérées comme acceptables, y compris dans l'espace public. Dans l'espace privé, faites chacun ce que vous voulez. Et donc ici, il n'y a pas d'instance, nulle part, il n'y a pas d'instance qui définirait, même les psys n'en savent rien. Il y a quelques années, mais là je peux vous dire qu'ils ne le disent plus maintenant, mais moi je garde. C'est l'avantage d'être vieux. Je garde que je les surveille, les psys. Il y a quelques années, il y avait des psys qui disaient qu'un enfant qui avait le téléphone à 12 ans était en voie de perdition. Naturellement, parce qu'à l'époque, il n'y en avait que 3 ou 4% dans la diffusion. Je n'ai pas osé le dire, mais l'autre jour, mon petit-fils, hop, il a 10 ans, ses parents, donc mon fils, et a offert un téléphone portable. J'ai failli lui dire, attention, tu crains, hein. Ça, il craint de se faire piquer, ça, il le sait. Mais est-ce que c'est un signe? Non. Aujourd'hui, on peut avoir le téléphone portable à 10 ans et se porter bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'à une autre époque, c'était un signe de pathologie. Il n'y a pas eu d'époque, à mon avis. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de signe d'individualisation qui serait forcément en soi absolu. Sauf un, et je terminerai là-dessus. Pour moi, il y a un critère. Donc c'est l'objet de la discussion, mais c'est mon intime conviction, à la fois comme citoyen et comme sociologue. D'abord comme sociologue, puis comme citoyen, parce que l'idée m'est d'abord venue. C'est que pour moi, il faut pouvoir éventuellement avoir la possibilité, c'est absolu, c'est à mon avis contenu dans le schéma d'individualisation, c'est le fait qu'on a le droit de définir son « je » personnel. Là, c'est une grosse couche de neige, là. Bonjour, vous venez pour la séance d'après? Nous sommes désolés, il n'y aura pas de deuxième séance. Alors, je finis. Quel est le critère? Donc, faites bien attention. Le critère par lequel dis-je n'est pas un critère culturel, au sens quelqu'un qui dit qu'il aime Racine ne dit pas mieux « je » que quelqu'un qui dit qu'il aime, je ne sais pas, ce que vous voulez, vous le remplacez par ce que vous voulez, d'accord? Pas de critère, ce n'est pas le niveau des pratiques culturelles en termes de légitimité qui donne la profondeur du « moi ». Le critère de l'individualisation, il n'y en a qu'un. C'est que j'ai la possibilité, à un autre moment, de me redéfinir moi-même. Donc de m'émanciper, faites bien attention, de m'émanciper, y compris de mes identités personnelles précédentes. La logique de la séparation. Donc aujourd'hui, je peux, quand je dis je, ce qu'on veut, je peux être sociologue à la condition qu'éventuellement j'ai, donc il y a aussi des conditions sociales par lesquelles je puisse ne pas forcément être toujours enfermé par cette identité. Donc ici, normalement, le critère, c'est le critère de la réversibilité. Donc, par exemple, il ne peut pas y avoir de mariage individualisé s'il n'y a pas de divorce possible. Non pas parce que le divorce est idéal, mais parce qu'à un moment donné, je dois pouvoir dire, c'est terminé. Je peux donc mettent à l'intérieur de moi-même comme identité la plus profonde la religion, j'ai le droit. À une condition, c'est que je puisse aussi, mettons dans 3 ans, dire, eh bien, c'est fini. Le processus, donc la réversibilité, est une... Alors vous voyez bien que ça pose notamment, on ne va pas le lancer, mais c'est pour vous dire que normalement la logique de l'individualisation pose un certain nombre. Il y a des pratiques, moi j'y connais rien, mais apparemment, par exemple, vous allez me dire, bon, ça y est, ça y est, devient un peu et tout. Certains types de pratiques sont des pratiques qu'on appelle de dépendance ou d'addiction. De telle sorte qu'en fait, le produit, justement, soit fait pour que vous perdiez le pouvoir de dire non. C'est-à-dire la difficulté de dire j'arrête. Donc, normalement, l'individu individualisé doit avoir un certain nombre de pratiques qu'il apprécie, mais jamais, y compris son conjoint et son amoureux, jamais au point d'être fusionnel avec, c'est-à-dire de perdre le pouvoir sur lui-même. Parce que l'individu se définit en dernière instance par le pouvoir de dire non, je me redéfinis autrement. Et c'est ce qu'a fait Montaigne à un moment donné. Il a dit non, je ne suis pas maire, et il a démissionné du fait d'être maire de Bordeaux. Je vous remercie.